Donc, pour resituer, Edmond Charlot, ruiné, quitte donc Paris pour revenir en Algérie en 1948. Pendant la décennie des années 50, il va ouvrir une librairie-galerie, exposer des peintres algérois, éditer un certain nombre d'auteurs de différentes périodes et différents horizons, et travailler activement avec le poète et critique littéraire Jean Sénac. En 1961, un double plastiquage de l'OAS détruit sa librairie, ses archives, et Edmond Charlot cesse provisoirement ses activités d'éditeur. Et c'est à cette occasion qu'il va se tourner vers la radio et rencontrer Pierre Vigne et André Lemas, que j'appelle à la table ronde. Pierre Vigne, donc ancien directeur de France Inter et de la création et de la programmation d'Antenne 2, et André Lemas, ancien rédacteur en chef de France Inter. Ce sera ensuite l'aventure des centres culturels Alger, Izmir, Tanger, dont Guy Basset nous fera part, et que j'appelle également donc à la table ronde. Puis, en 1980 et jusqu'aux années 2000, le retour à la librairie et l'édition Apesnas avec Eliette Paris, donc auteur qui a grandi en Algérie, qui l'a quitté pour regagner Paris en 62 et qui est revenu, qui a marqué son attachement à sa terre natale dans sa poésie, donc auteur qui sera édité par Edmond Charlot, et Jean-Charles Domins, éditeur, donc imprimeur qui a travaillé avec Edmond Charlot, qui est devenu l'héritier de sa passion et de son savoir-faire. Et sur ce, je laisse la parole donc à Guy Basset et Pierre Vigne. Merci.
Eh bien, nous allons aborder une question qui est, vous m'entendez, qui est peu abordée, hein, et sur laquelle nous manquons d'informations, hein, à propos de la carrière d'Edmond Charlot autour de la radio. Alors, il y a deux périodes, hein, dans cette carrière, dans ces moments. Il y a une période à Alger et il y a une période à Paris. Pierre Vigne, c'est à Alger que vous avez rencontré Edmond Charlot. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances et si vous avez travaillé et comment vous avez travaillé avec lui ?
Au mieux, grâce à lui. Après toutes les voix autorisées que nous avons entendues, j'ai quelques scrupules naturellement à intervenir à mon tour. Je ne suis pas savant, je ne suis pas historien. Je ne suis qu'un vague journaliste à la retraite, c'est vous dire. Donc je demande de votre part un minimum d'indulgence. En fait, Edmond Charlot, je l'ai rencontré sans le connaître. C'était en 1954. Et j'étais à Bordeaux, j'avais 20 ans, j'étais étudiant. Je ne sais pas qui a dit « Et si on montait une bibliothèque ?» Une idée un peu folle. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de culture, et on va monter une bibliothèque. Et on décide de faire un appel au peuple, et on leur dit « Regardez dans la bibliothèque de vos parents, de vos amis, de vos voisins, s'il n'y a pas quelques livres qui pourraient nous intéresser. » Et c'est comme ça qu'un jour, je suis tombé sur un petit livre en assez mauvais état, chiffonné, un peu jauni, noce. Et j'ai ouvert le livre. Il y avait une dizaine de pages au début, noce à Tipaza, où il était question d'une ville d'Afrique du Nord où les dieux parlaient directement dans le soleil. Et l'odeur des absinthes, ça m'a paru formidable. Qui a écrit ça ? Un certain Camus. Pour moi, c'était une découverte. J'affirme hautement être ignorant à cette époque-là de 26 000 choses. Et ça a été un choc, franchement. En 1954, l'éditeur, c'était en bas de la couverture, Edmond Charlot. Bon, je n'ai pas fait très attention, ce nom m'était inconnu. En 1954, c'est la conférence de Genève, c'est la fin de la Indochine française. C'est Pierre Mendès France. Mais c'est surtout le drame des Aurès, la Toussaint rouge, comme on dit, et c'est la guerre d'Algérie qui se déclare. Ma génération est mobilisée. Nous nous retrouvons là-bas pour de longs mois. Et à la sortie de l'école militaire de Cherchel, on nous remet nos galons en grande pompe, clairons, tambours. Et à Tipaza, Est-ce que je vous ai dit que Tipaza est habité par les dieux et que, oui. Et j'ai interprété cette rencontre, cette coïncidence, comme un signe. Deuxième signe, après de longs mois à se faire des muscles dans le Djebel, nous sommes invités à aller à Alger, à France 5. Le 5, c'est un V, c'est le 5 romain. Et là, on nous dit qu'il fallait renforcer la rédaction. Donc on était très flattés d'être considérés comme des gens qui allaient renforcer la rédaction, un métier que nous connaissions à peine, qui était celui du journalisme. Mais il y avait surtout un patron formidable dont on ne parle plus du tout, qui s'appelait Georges Drouet. Drouet. Un gaillard, cheveux courts, col ouvert sur une chemise d'été, des espadrilles bleues et blanches. C'était le contraire du clerc de notaire de Limoges. C'était pas du tout ça, son aspect à lui. J'ai rien contre les clercs de notaire de Limoges, il y en a ici, je présente mes excuses. Et donc, toute cette bande de jeunes types arrive, il les organise, ça devient... Oh, je vais reprendre un peu l'expression, ça devient une bande, la bande à Drouet. Il y avait là des gens dont vous avez peut-être entendu parler, qui arrivaient tout juste, Philippe Labro, Daniel Costel, Laurent Mossu, François Luizet, Jean-Claude Narcy, Claude Lagaillarde, François Ternoir et beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous ? Alors, Drouet nous a conviés à rencontrer des anciens, des gens qui connaissaient, eux, le métier. Il y avait Jean Lacour, il y avait Marcel Amrouche, le neveu de Jean, il y avait Claude Lagaillarde, et puis un certain André Lemas, qui est là. Alors, vous pourrez le questionner là-dessus tout à l'heure. Et c'est surtout un gaillard qui était là, très... comment dire ? Il était présent sans être ostensiblement présent. Voilà, il passait, on se renseigne, et on me dit, mais tu connais pas ? Ben non. Mais si, tu connais, mais non. C'est qui ? Edmond Charlot. Noce. Ça y est, j'y suis. C'est donc le fameux éditeur. Drouet lui avait confié des émissions culturelles. Tous les jours, il faisait un papier pour parler de l'actualité culturelle. C'était pas bête comme choix, quand même. Et c'était ce que développait Edmond dans ses papiers. C'était la culture, bien sûr, mais pas n'importe laquelle. C'était une culture au parfum de la Méditerranée. On sentait que la Méditerranée, lui, c'était une seule et même entité. Entre l'homme et son environnement, il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait que un goût, une sensibilité partagée. Edmond Charlot, je le découvrais donc, et je découvrais un homme d'ouverture. Il nous parlait comme à des égaux, nous qui ne savions pas grand-chose. L'ai-je dit, ça ? Oui. Comme à des égaux, il était d'une ouverture, d'une franchise, d'une gentillesse, d'une tolérance. Je ne dis pas ça parce que ça fait bien, parce que c'est la mode. Je le dis parce que c'est vrai. C'était un homme qui avait une capacité d'accueil exceptionnelle. Il y avait aussi l'humour. Il y avait surtout la liberté d'esprit. Alors ça, c'est bien. Il faut bien se souvenir quand même du climat de cette époque-là. Vous imaginez, l'Algérie, Alger. Et lui restait ferme dans ses convictions, sans tapage, mais sans faiblir. Tout le monde souffrait à cette époque-là. Tout le monde était inquiet. Lui, il souffrait aussi, il était inquiet, mais il gardait son sang-froid. Pourtant, il y avait une sorte de fatwa qui avait été lancée pour lui. C'est, figurez-vous, que Charlot était un gaullo-libéral. Alors ça, c'est pas bien. Dans le contexte du temps, être gaullo-libéral, c'est pas un passeport pour l'avenir. Et en effet, cette nouvelle librairie qu'il choyait et qu'il avait installée rue Michelet, la grande rue d'Alger, a sauté, explosé, boum, on vous l'a dit tout à l'heure, une première fois. Mais le travail n'était pas fignolé complètement. Alors 8 jours plus tard, une deuxième fois. Alors là, parfait. Une partie de l'étage du haut est tombée sur le bas. Plus de stock de livres, plus de documents, plus de tableaux, plus rien. On aurait pu imaginer qu'après toutes les épreuves qu'il avait déjà connues dans sa vie, Quenemont aurait abandonné. Ben non. Il y avait surtout une chose qui l'avait touché, c'était que lors de la première librairie, il y avait... Albert Camus avait travaillé avec lui, comme vous savez, ils s'étaient rencontrés dans le même lycée, etc., à Bugeaud, et il avait des notes de lecture d'Albert Camus. Ces notes de lecture, il les avait conservées. Et les notes de lecture ont disparu ce jour-là. Tout ça parce que Charlot était un gaulo libéral. Donc, paf, en moins. Quand l'explosion eut lieu, moi, j'étais à la télévision d'Oran à ce moment-là. Et c'était 3 semaines après, nous avons explosé. Et aucun de nous n'était gaulo libéral. On était des professionnels qui faisaient leur travail. J'ose dire professionnels, il y a de l'audace là-dedans. Mais enfin, des gens qui faisaient comme s'ils étaient professionnels et qui faisaient leur travail aussi bien que possible. Coup de téléphone, c'était Edmond qui téléphonait et qui disait « Comment ça va ? Faut pas lâcher, hein ? Faut tenir, etc. » Edmond qui venait de sauter. Bon. De retour à Alger, les conversations reprennent. Généralement autour d'un verre d'anisette. Taper l'anisette, on dit en pied noir, c'est ça hein? Taper l'anisette. Alors on a tapé l'anisette et on passait du sourire à la gravité. Parce qu'Edmond était comme ça. Il était, c'était pas un monolithe. C'était un personnage à 1000 facettes. Alors, dit, raconte. Raconte ta rencontre avec... Camus au lycée Bugeaud, où enseignait Jean Grenier, celui-là même qui l'a incité à monter sa librairie. Alors, il racontait. Raconte quand tu jouais au football, au RUA, au Racing universitaire algérois, et que Albert Camus était appelé à ce moment-là Bébert le Gaulle. Il portait une casquette qui lui tournait les oreilles vers le bas. Il enfonçait jusque-là, Robert le Gaulle. À noter d'ailleurs qu'après le terrible accident d'auto que vous savez et qui mettra fin à sa vie, les gens qui l'ont porté à sa dernière demeure, c'était des footballeurs. Je suis sûr qu'il aurait adoré ça. Des footballeurs qui ont porté jusqu'au cimetière de Lourmarin. Donc, Camus, Edmond Charlot, les éditions Charlot, il était assez fier d'être le premier éditeur important en Algérie. Jusque-là, quand on voulait vraiment être connu, on allait se faire éditer à Paris, à Alger. Bien sûr qu'il y avait des petites éditions, mais ce n'était pas l'édition de première classe, si j'ose dire. Et ça a commencé comme ça. Après quoi, après la guerre, comme vous savez, il a monté une succursale, comme il disait, une succursale à Paris, dans le Paris de la Libération, où d'ailleurs il retrouvera Camus. Mais il va trouver un local. Fort heureusement, une dame est venue leur donner un coup de main. Il faut avoir de la reconnaissance pour elle, c'est Marthe Richard. Marthe Richard avait laissé des locaux sans occupation. Et il y en avait notamment un local, rue Grégoire de Tours, à 2 pas de Saint-Sulpice, comme quoi le vice et le péché peuvent très bien vivre ensemble, c'est très humain au fond. Et c'est là qu'il s'est installé. est un endroit raffiné. Et puis, ça a été très bien dit tout à l'heure. On édite, ça coûte. Et un jour, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Ben, il dit, au début, on a vendu les lits. Après, on a vendu les miroirs. Et quand il n'y avait plus rien, on a fermé la porte. Il savait bien que je n'étais pas suffisamment raffiné pour comprendre les difficultés du financement et du prêt des banques. Mais j'avais en gros compris l'idée. Et par surcroît, il me semble qu'il n'avait pas eu l'appui courtois, amical, confraternel des autres maisons d'édition. Mais je peux me tromper. En 1962, donc c'est la fin de la guerre d'Algérie, le 8 juillet 62, le 5 juillet 62, nous sommes quelques-uns à rentrer à Paris. Et là, on retrouve Georges Drouet, dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'était installé dans la maison ronde, maison de la radio, que venait d'inaugurer le général de Gaulle. Et c'est alors qu'il nous a demandé de faire une émission que nous avons appelée Archives 1464. Alors, André et Edmond se sont associés à ce projet. L'idée, c'était de faire revivre à partir des archives, lesquelles étaient dans un état pitoyable. Vous savez, à cette époque-là, on travaillait beaucoup avec des disques, on faisait des montages avec des crayons gras. Puis après, il y a eu les bandes magnétiques, mais les bandes magnétiques, il n'y avait pas trop de sous, alors il fallait les réutiliser. Ça fait qu'on effaçait ce qui était avant. Et puis, à force, elles s'usaient, ces sacrées bandes magnétiques. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec des bandes magnétiques usées ? On les jetait. Et c'est bien après qu'on a pris conscience que peut-être ça pouvait être des archives. Et donc notre travail, le travail que Drouet nous avait proposé, c'était d'essayer à travers les archives qui avaient été sauvées de l'indifférence, qu'on essaie de refaire des émissions aussi vivantes que possible sur les temps forts de 1914 pardon, à 1964, 50 années. Et là, alors on a fait tous les sujets, mais il y en a un sur lequel j'aurais attiré votre attention, parce que là, Edmond a donné toute sa mesure. C'était un des épisodes qui évoquait Albert Camus, c'est pas une surprise. Alors, évidemment, Edmond avait quelque chose à dire là-dessus. Camus est mort 4 ans plus tôt, à ce moment-là. Edmond, avec émotion, sourire, mais aussi sérieux, nous a fait vivre toute cette épopée qu'il avait partagée avec le prix Nobel. Et le prix Nobel en question, dans cette bande magnétique que vous pouvez entendre, parce que si vous avez Internet, il n'y a aucun problème pour entendre cette émission. Elle a été reprise par une série qui s'appelle Mythologie de poche de la radio de Thomas Baumgartner. C'est un jeune professionnel plein de talent. Et donc, le prix Nobel, Albert Camus, à un moment donné, à partir d'un texte d'un auteur algérois, il s'appelait Musette, se mit à raconter en langage patouette, avec un accent terrible, un accent de Bellecour, là où il avait passé ses années d'enfance. Il parlait l'histoire d'une certaine Nina la Poileuse. Ça ne vous dit rien ? Non. Eh bien, Nina la Poileuse, un jour, pour être plus belle qu'elle n'était encore, si tant est que ce soit possible, avait décidé de changer la couleur de ses cheveux. Ça a l'air de rien, mais à la vérité, ça a été un vrai problème, parce que l'exercice n'a pas été totalement maîtrisé. Et à partir de là, elle a changé de couleur, mais pas la couleur prévue. Et donc, Camus raconte ça avec l'accent. Je me souviens d'une phrase, il disait toujours « Aïe, aïe, ma fille, quel malheur, j'ai venu carotte. » Et j'aimais bien cette série d'émissions, on l'a aimé tous, nous, puisqu'on passait d'un sujet grave, parfois, à ce qui fait le sel de la vie, qui est quand même le sourire. Donc, si vous voulez l'entendre, je n'ai aucun intérêt financier. Mythologie de poche de la radio, Thomas Baumgartner sur Internet. Parallèlement, on parle toujours radio, hein. Parallèlement, Edmond s'activait au service de la recherche de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, c'est un qui a fait un travail énorme, était aussi un sacré gaillard, puisque lors de la libération de Paris, il était, je ne sais plus où ils habitaient à cette époque-là, peu importe, il avait fait une émission avec quelques collaborateurs au moment même où on entendait les cloches de Notre-Dame, ça y est, Paris est libéré. C'est aussi dans les archives, ça. L'ennui, c'est que l'émission a été faite quelques années après la libération de Paris. Comme quoi, il y a des directs, quand même, qui anticipent beaucoup. Enfin, je passe. Là, cette fois-ci, avec Pierre Schaeffer et Jean Lescure, vieux complice d'Edmond, ils vont produire 3 disques chez Lucien Hadès, et dans lequel notamment Camus est interrogé sur sa vie du monde, la spiritualité, la philosophie, l'engagement politique, etc. Et interrogeant Camus, Edmond là-dessus, on a dit « Écoute, je ne peux pas te dire, mais écoute les disques, tu verras, Camus aborde tous les sujets, c'est très bien, et depuis, il n'y a plus rien à dire. » C'est le conseil que je vais suivre avec votre complicité. Je ne voudrais pas vous prendre trop de temps qu'il est, et je vous remercie de votre écoute.
Alors, je voudrais essayer de prolonger déjà avant de passer, vous passer la parole, André Lemas. Je voudrais effectivement essayer de prolonger sur cette fameuse émission, ces fameuses émissions 1464. Hein, car si j'ai bien compris, vous étiez tous les trois complices dans cette émission-là. Et quand on regarde les sujets, on est assez époustouflé. Il y a Landru, il y a l'opérette Fifu, il y a le procès Nuremberg, il y a Jean Jaurès, il y a Colette, il y a le général Leclerc, il y a Jouvet, il y a Fernand Léger. Alors, il y a le champion et le virtuose. Hein. Donc, effectivement, comment est-ce que vous vous mettiez d'accord pour choisir les sujets et quelle part vous vous répartissiez les uns et les autres ?
Vous savez, le choix des sujets se faisait d'une manière très simple, c'est qu'il fallait trouver des archives précisément pour pouvoir faire l'émission et avoir des éléments sonores qui puissent intéresser l'auditeur. Et donc, nous faisions une série de titres, nous allions rechercher aux archives les éléments sonores qui existaient, et à partir de là, on construisait, dans la mesure où le sujet nous plaisait, bien sûr, on construisait donc l'émission en question. C'est alors, exactement comme ça que
moi, j'ai noté 2-3 sujets qui m'interpellent, si on peut dire. Il y a des émissions sur le Concile, oui, qui est contemporain. Oui. Hein. Et puis, j'ai entendu dire, mais malheureusement, ces émissions, on a du mal à les écouter, à pouvoir les écouter, que parmi les grands moments de ces émissions, il y a eu une émission sur la bombe atomique, oui, hein, et il y a eu une émission au moment de la mort de Kennedy. Oui. Hein, qui à mon sens... J'allais dire, j'ai envie de vous poser la question à l'un et à l'autre. Quelles sont pour vous les grandes émissions que vous avez faites avec Edmond Charlot et sur lesquelles vous nous diriez il faut absolument passer par ces émissions pour avoir une idée d'Edmond Charlot, homme de radio?
Je ne sais pas si on s'est posé la question.
Oui.
Honnêtement, vous savez, c'est... Enfin, journalisme tel qu'on l'a pratiqué à cette époque-là, c'est un prétexte pour apprendre. C'est-à-dire, on n'arrive pas avec le savoir, mais c'est à l'occasion de l'émission que petit à petit, on a l'impression de savoir. Alors, c'était à chaque fois qu'on le pouvait, c'était des sujets qui pouvaient... qui étaient en phase avec les interrogations du public. Mais c'est aussi, avec parfois, vous parliez de Vatican II, alors parfois, bon, quand on fait sonner les cloches de Rome et puis les coups de canon, etc., annonçant l'événement, on avait bien des bruits de canon, mais on n'avait pas... Plutôt, on avait bien des bruits de cloches, mais on n'avait pas les bruits de canon. Et alors, c'est au passage, si vous faites ça un jour, vous prenez un piano à queue, vous mettez un micro assez près de la résonance, vous tapez à coups de poing sur le piano, ça donne un tir d'artillerie absolument épatant. Et c'est la seule fois, je crois, où on a triché. Mais c'était, ça ne nous a pas paru grave. Et ça a illustré, après tout, notre propos. Il fallait faire vivant. Voilà. Mais là aussi, bon, il faut voir quand même. Parce que c'est une encyclopédie, cet homme. Il y avait peu de sujets qui étaient, pour lesquels il avait de l'indifférence. Et puis André, s'il n'était pas là, je dirais du bien, naturellement. Mais c'est pas n'importe qui. Et puis voilà, puis moi, j'étais le petit jeune de service, voilà, comment on a fait. Mais ça a été un moment formidable. Parce que souvent, c'est l'actualité qui vous guide. C'est l'actualité qui vous impose le thème. Vous n'êtes pas libre, vous êtes derrière. Vous vous débrouillez comme vous pouvez. Là, regardez, c'était nous. C'est nous qui décidions. Tiens, si on parlait du pape. Tiens, si on parlait de Marcel Cerdan. Tiens, si... Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme archive, comme dit André. Et voilà. Alors après, un texte et tout. C'est une émission... Enfin, je ne devrais pas dire ça, parce que c'est un manque de modestie exagéré. Mais je crois qu'il y a eu un certain succès.
Alors, j'aurais une dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé, et puis après, nous prolongerons. La télévision commence en 1956 à Alger. Hein, et vous n'avez finalement parlé ni dans la période de Paris, ni dans la période d'Alger, de la télévision. Est-ce qu'il y a eu une présence d'Edmond Charlot hein, dans le milieu télévisé ou est-ce que c'était à Alger ou... Parce qu'à Alger, on sait que la télévision... les hommes de artistiques, hein, et qu'on sait que, d'une part, les hommes artistiques y participaient, puisque Sauveur Galliero faisait des décors pour la télévision. Mais est-ce que l'activité d'Edmond Charlot a été uniquement limitée à la radio, ou est-ce que vous avez connaissance, l'un ou l'autre, hein, d'activités à la télévision, autres que des interviews, hein, j'allais dire, à la fois en Algérie et à la fois en France?
Non, Alger, je ne crois pas que Edmond Charlot ait participé à des émissions télévisées. D'abord parce que ça n'était pas sa chose, bien sûr. Hein, et puis parce que, bon, il n'a pas été sollicité pour des émissions littéraires. Il en a fait donc à la radio. Et à Paris, alors, je n'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas s'il a fait au service de la recherche, s'il a fait des émissions littéraires, je n'en sais rien.
Mais Alger, non. Alger, non. Je vais, avec votre autorisation, hélas, il faut que je parte, mais quand même, je voudrais vous donner c'est une simple anecdote. Quand en juin 62, beaucoup s'en vont, moi, j'avais une vieille dauphine. J'ai commencé, c'est vraiment pas très intéressant ce que je vais vous dire, mais je compte beaucoup sur votre... Une vieille dauphine dont mon garagiste qui a prétendait qu'elle avait un moteur de 4 chevaux. Mais je n'ai jamais cru vraiment faire marcher une dauphine avec un moteur de 4 chevaux. Je ne voyais pas comment c'était possible. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas l'intention de la ramener en métropole. Donc j'ai cherché à la vendre. Et Edmond m'a dit, mais moi je te l'achète, ta dauphine. Ah bon ? Et il s'est lancé pour le plaisir dans une négociation extraordinairement difficile. Et finalement, nous sommes mis d'accord. Il est devenu le propriétaire de la Dauphine, moyennant une tournée d'Anisette.
Et vous ne l'avez pas vu conduire la Dauphine?
Non, il ne savait pas conduire.
Il ne savait pas conduire, Edmond. Ou, il avait le permis de conduire, mais il ne conduisait pas. En tout cas, Pierre-Vine, un grand merci de votre témoignage. Je pense que tout le monde peut vous applaudir et vous remercier de ce portrait que vous avez donné. Et puis, nous allons prolonger la conversation sur la radio à Alger avant de passer aux autres témoignages.
Merci
beaucoup.
Excusez-moi.